Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Unis pour mieux s'entraider, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et aussi sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli. Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de solidarité. Petit Manu nous fera découvrir les origines de la journée de la solidarité.
Bonjour à tous, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, et comme tu as très bien résumé, eh ben, mon rôle c'est de vous donner une petite définition, de façon que vous sachiez un peu plus. Bonjour à tous, un immense plaisir de vous retrouver.
Marie-Christine va nous expliquer jusqu'à quel montant on peut être solidaire financièrement sans payer de taxes en France.
Oui, la solidarité en France, c'est pas seulement une valeur morale, c'est aussi un principe de droit. Je vais vous expliquer tout ça.
Comment peut-on aider en cette fin d'année ? Notre invité Thierry Raymond, secrétaire général de la Fédération 92 du Secours Populaire, nous répondra dans un instant. La solidarité humaine comme source profonde de bien-être individuel, c'est la chronique de Ponari.
Salut Didier, salut à tous. L'engagement solidaire motive par le désir d'utilité, mais aussi par le bien-être intérieur. Aider les autres peut être une source de sens, de connexion, de satisfaction profonde, ce qui rejoint l'idée de que la solidarité est aussi un remède invisible pour notre bien-être. Pas seulement la solidarité sociale, mais celle qui nous transforme intérieurement, celle qui nous aide à tenir debout et à respirer, à nous sentir humains. Pour cette chronique, je vous propose de l'aborder sous 5 points essentiels, 5 portes d'entrée vers un mieux-être profond.
Et pour notre page culture, Kevin nous fera jouer à son quiz des plus belles chansons solidaires.
Ah bah il y a pas mal, j'imagine.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien oui, parce que chanter, c'est donner pour des associations, pour des grandes causes. C'est ce qu'ont fait les artistes que je vais vous citer tout à l'heure dans mon quiz.
Eric nous parlera d'une époque télé où la solidarité était omniprésente.
Salut Didier, salut à tous. Eh oui, vive la solidarité à la télévision. Ah, toutes ces émissions solidaires. Eh oui, pas n'importe laquelle. Puisqu'il s'agit des émissions caritatives du Club Dorothée. Dans ma chronique, je reviendrai sur 2-3 émissions phares. Et vous savez quoi ? Comme la période s'y prête, je parlerai des émissions solidaires qui sentent le sapin. Mais surtout Noël. A tout de suite dans ma chronique.
Et l'émission, on l'écoutait religieusement, c'est pour ça que je ne vous ai pas coupé la parole. Notre cher ami Didier, qui résume très bien, qui supervise, qui est très harmonieux. On l'applaudit, n'est-ce pas ?
Soyez solidaires.
Didier,
ils sont solidaires avec moi.
Ben voilà, évidemment, on ne laissera jamais tomber. Vive la solidarité et la fidélité.
Le mot solidarité vient du latin juridique solidus, qui veut dire entier, complet. Au Moyen-Âge, puis dans le droit moderne, être solidaire signifiait d'abord être responsable ensemble d'une dette. Un terme né pour régler des comptes financiers s'est donc ensuite mis à parler de chaleur humaine. Il faut attendre le 19e siècle pour qu'on commence à parler de solidarité ouvrière, solidarité nationale, solidarité internationale. Il y a une journée internationale de la solidarité humaine. Comment est-elle née ? La réponse avec toi.
Bah moi-même.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Baraka Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les cravottes. Hein. Non.
Tous les quoi ?
Alors, après les bonnes explications que nous a bien énumérées Didier, je continue. La journée internationale de la solidarité est une journée reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Elle a eu lieu le 20 décembre chaque année pour célébrer l'unité entre tous les humains. Rappelons que nous partageons une responsabilité collective face aux défis globaux. Pauvreté, inégalité, climat, etc. Entourer la corporation, elle entraîne à l'échec mondial. Cette date a été proclamée en 2025 par l'Assemblée générale de l'ONU pour ancrer solidarité comme une valeur universelle.
Et il y a une journée de solidarité en France qui est un jour supplémentaire de travail pour le salarié non rémunéré par l'employeur. La journée de solidarité a été créée en 2004.
Eh oui.
À la suite de la canicule de l'été 2003,
qui avait coûté, qui mouraient, malheureusement,
qui avait coûté la vie à près de 20 000 personnes âgées.
Et oui, même certaines fois, on découvrait une semaine leur décès après. Et en plus, c'est des personnes âgées qui n'avaient personne.
2004, donc la journée de solidarité a été fixée par la loi au lundi de Pentecôte. Mais depuis 2008, cette date n'est plus imposée. Libre à l'employeur de décider de placer la journée de solidarité quand il le souhaite dans le calendrier annuel. À l'exception du 1er mai, quand même.
C'est bien de le préciser, parce qu'on ne le sait pas toujours, dit. Voilà, on vous tient au courant fidèlement. Voilà.
Mais enfin, elle est obligatoire, cette journée.
Ouais, normalement.
Oui.
Elle est précisée.
Obligatoire, mais pas forcément le lundi de Pentecôte.
Bah voilà ce qu'il faut savoir.
Merci, petit Manu.
Je t'en prie.
En France, être solidaire n'est pas seulement une affaire de cœur, c'est aussi une affaire de loi. Elle s'inscrit dans le code civil et parfois même jusque dans le portefeuille. On la retrouve par exemple à travers l'obligation alimentaire, cette aide que les enfants doivent à leurs parents ou inversement quand l'un des deux est dans le besoin. Et puis il y a la solidarité du choix, les dons, les petits coups de pouce familiaux, mais que l'État bien sûr encadre avec des règles fiscales. Entre devoir familial et générosité mesurée, la France trace une frontière singulière entre aide privée et solidarité nationale, comme va nous l'expliquer Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, en France, la solidarité familiale n'est pas une option, c'est une obligation légale. Elle s'appelle l'obligation alimentaire. Là, il n'y a pas de taxe. Pour les donations financières, ça dépend du lien de parenté. Alors, les parents...
Alors, peuvent... combien petit Manu peut me donner?
Oh là là,
oh là là,
je me suis pas posé la question.
Oh là là, pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose.
Tu vas nous dire justement, par lien de parenté, jusqu'à combien on peut donner sans être taxé.
Je peux vous donner sans être taxé pour la famille. Hein. Donc, les parents aux enfants peuvent donner 100 000 euros tous les 15 ans.
Ah d'accord.
Les grands-parents avec les petits-enfants peuvent donner 31 865 euros tous les 15 ans.
Ah, c'est pas rond.
Voilà.
Le chiffre est 100 000 euros, c'est rond, et puis l'autre, il est pas rond. Bon.
L'arrière-petits-enfants peut donner 5 310 euros, c'est pas grand-chose.
Non.
L'époux ou partenaire, le PAX, on peut donner 80 724 euros tous les 15 ans aussi.
Ah, moins que les parents.
Ah ouais, quand même.
Les frères et sœurs, 15 932 ne sont pas taxés, pareil. L'oncle et la tante, 7 967 euros. Voilà, ces abattements sont remis à zéro après 15 ans entre le même donateur et le même donataire.
D'accord.
Au-delà, vous payez des taxes. Par exemple, en ligne directe, on paye 5%. Au-delà de 8 772 euros par enfant. Entre frères et sœurs, c'est 35% au-delà de 24 430 euros imposables.
D'accord.
Alors donc, si tu me demandes de l'argent, ce sera taxé dès le premier euro, j'ai bien compris.
Manu, tu peux te faire passer pour mon père?
Non. Bah non, parce qu'au niveau identité, on n'a pas le même nom, puis je crois que ça ne va pas marcher. J'aimerais bien, mais...
Tu ne peux pas me donner grand-chose ou alors tu es taxé?
Voilà, bah exactement, je crois qu'il y a tout ça fait résumer,
Marie-Christine. Sans compter que je crois cette année, l'Assemblée nationale a voté quelque chose qu'il fallait absolument déclarer sur le moindre don.
Donc en plus, on doit déclarer, je crois que je pourrais pas, même si j'aurais aidé, malheureusement, j'aurais des gros problèmes, ça me jouera des mauvais tours.
Déclarer sur sa feuille d'impôt.
Voilà, en plus, c'est quand même extraordinaire. Comme tu précises bien, Marie-Christine. Oh là là.
Oh là là.
Eh bien, merci, Marie-Christine. Selon le baromètre 2024 du réseau France Générosité et un sondage IFOP, 72% des Français déclarent avoir donné ponctuellement ou régulièrement à une association ou fondation et 48% se disaient donateurs réguliers. Et puis en cette période de fête, bien sûr, on peut faire des dons de vêtements, de nourriture, de jouets.
On peut donner des choses, c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas les moyens, des habits, des jouets, des affaires, ça peut toujours rendre service.
Comment offrir sa générosité en cette période de fête? Pour répondre à cette question, notamment, nous avons Thierry Raymond, secrétaire général de la Fédération 92 du Secours Populaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment, en cette période de Noël, de fin d'année, on peut aider autre que financièrement?
Oui, alors évidemment, parce que le Secours Populaire, on organise donc des dons aussi de jouets neufs, hein, pas que dans le financier, évidemment la finance nous intéresse forcément, hein, c'est logique, mais nous récoltons aussi des jouets neufs, des denrées aussi alimentaires.
D'accord.
Mais nous proposons aussi aux bénévoles qui le souhaitent d'accompagner les enfants pour des sorties, puisque nous organisons plusieurs sorties culturelles et de loisirs, aussi pour faire des paquets cadeaux, participer aux distributions alimentaires, nous aider aussi lors des arbre de Noël que nous organisons pour les enfants. Enfin, il y a de multiples façons d'aider au niveau du Secours Populaire, il n'y a pas de souci.
C'est quoi la campagne des Pères Noël verts?
Alors, les Pères Noël verts, en fait, c'est ce que nous mettons en place donc depuis 1979 maintenant. Donc ça permet de recueillir des jouets, donc des jouets neufs, qui vont être ensuite donnés soit aux parents pour qu'ils puissent les donner à leurs enfants, soit distribués lors des arbres de Noël qui sont organisés dans les structures du Secours Populaire français. Quoi. Donc en fait, on l'a dit, Père Noël vert, en fait on est l'aide au Père Noël qui lui est plutôt représenté de manière rouge pour l'aider à recueillir des jouets pour les donner donc à ceux qui sont dans la précarité.
Alors en ce qui concerne la collecte de jouets, c'est-à-dire qu'on peut vous envoyer des jouets neufs, anciens?
Alors nous considérons que les gens qui sont dans la précarité et voire la misère méritent aussi d'avoir des jouets neufs, quoi. Alors bon, au-delà du circuit de recyclage des jouets que nous avons, nous comprenons et nous sommes d'accord avec tout cela, mais pour les enfants que nous aidons, ils sont déjà dans la pauvreté et la misère, c'est difficile pour eux, donc nous considérons qu'il vaut mieux leur donner un jouet neuf plutôt qu'un jouet qui a déjà été utilisé. Alors, c'est pour ça que nous organisons des collectes de jouets neufs principalement. Alors c'est vrai que nous avons eu des collectes au niveau du Auchan et Fnac de la Défense, mais pour autant nous continuons les collectes donc au niveau de nos partenaires dans les entreprises, hôpitaux, banques, puisque nous avons des partenariats où nous pouvons donc recueillir des collectes. Nous faisons des collectes en magasin aussi.
Disons, en ce qui concerne les collectes de jouets, donc vous nous avez cité des magasins comme Auchan, je suppose qu'il y a d'autres magasins, il suffit tout simplement d'acheter des jouets ou d'avoir des jouets neufs et le déposer dans vos points de collecte Secours Populaire, je suppose.
Tout à fait. Alors, nous avons donc des actions spécifiques devant les magasins. Donc, nous sommes au niveau de l'entrée des magasins où là, il suffit de déposer les jouets qui ont été achetés au stand qui sont au centre du Secours Populaire. Et après, nous avons quelques lieux de collecte disséminés un peu partout sur les départements d'Île-de-France. Bon, ça, il vaut mieux se renseigner
sur le site
spécifiquement pour savoir où il se trouve.
Je suppose aussi qu'il y a peut-être des collectes de nourriture, mais de nourriture de fête de fin d'année, non?
Alors, bien évidemment, on continue tout ce qui est collecte de denrées alimentaires, parce que bon, la solidarité ne s'arrête pas en fin d'année, et c'est pas parce qu'on arrive près de Noël qu'on arrête les distributions alimentaires. Bon, toutefois, c'est sûr que la distribution va avoir une pause entre Noël et premier de l'an, mais bon, généralement, les structures, donc soit elles distribuent une ou deux fois par mois, et les grosses structures qui, comme Nanterre, donc distribuent plus souvent, donc font deux distributions par semaine, ils vont s'arrêter le 18 pour reprendre après en début janvier, quoi.
D'accord.
Le tout pour laisser le temps aussi aux bénévoles de passer des fêtes de fin d'année, bien évidemment. Nous avons des bénévoles qui agissent pour nous et ce ne sont que des bénévoles, j'aurais tendance à dire, quoi.
Je voulais savoir si la précarité avait vraiment beaucoup augmenté depuis 3 ans.
Oui, alors effectivement, si on prend les chiffres de l'INSEE, donc on a une augmentation nette de la précarité, puisque les Français qui sont sous le seuil de pauvreté défini par l'INSEE, 9,8 millions de Français qui sont sous ce seuil. Il y en avait 9,1 millions en 2023, et donc il y a une augmentation de 1,7 million sur 20 ans. Et le chiffre de cette année, il est équivalent en fait au niveau de fin des années 70. Donc c'est quand même un chiffre qui est très élevé. Alors nous, on a eu, plus précisément, on a eu une augmentation suite au Covid de 20% des gens que nous aidons. Nous pensions que ce niveau allait redescendre après le Covid et lors de la reprise de l'économie, mais en fait ce n'est pas le cas. Et cette année, on voit juste une stagnation de ce nombre de personnes que nous aidons.
Et vous pensez que les Français, ils sont de moins en moins solidaires en cette période de crise?
Alors, je ne pense pas, même si on peut observer en ce moment donc une petite stagnation des dons. Disons qu'on a, si on fait un peu le bilan, On a les dons que nous avions obtenus en 2024 et donc moins que 2023. Donc on peut dire qu'il y a une petite baisse par rapport à 2023, qui était une année un peu plus normale. Toutefois, il faut quand même attendre la fin de l'année, parce qu'on a beaucoup de dons qui arrivent en fin d'année, parce que du fait des fêtes de Noël, du fait aussi des impôts, etc. Donc bon, on a un petit pic sur les fins de l'année, donc il faut vraiment attendre la fin d'année pour savoir s'il y a une baisse. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on n'a pas vraiment une baisse qui est significative. Donc je pense vraiment que les Français sont toujours solidaires, et heureusement, puisqu'on a quand même un climat de baisse des subventions, donc il vaut mieux qu'ils soient donc solidaires. Sachant qu'aujourd'hui, si on regarde selon le baromètre Ipsos SPF, donc ce que populaire français de la pauvreté et de la précarité, on a quand même 1 sur 5 des Français qui déclarent être dans une situation précaire et 57% qui connaissent quelqu'un qui est dans la précarité. Donc forcément, en ayant cette connaissance des difficultés que peuvent avoir certains, ça aide, je pense, à avoir la solidarité et à continuer de donner, quoi.
Et vous pensez que les réseaux sociaux et puis la nouvelle technologie ont un petit peu changé la façon dont les gens s'entraident ?
Alors, je pense que les réseaux sociaux, alors évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, mais plus à titre d'information, si vous voulez. Et c'est vrai que ça permet de multiplier les canaux d'information et de savoir plus facilement comment aider, quoi, c'est sûr. Alors, voilà, nous avons évidemment des appels à bénévoles sur ces réseaux sociaux, hein, comme les événements particuliers, pour des braderies, la journée des oubliés des vacances, les journées d'oubliés du droit et de la santé, etc. Et c'est vrai que ça peut amener donc des bénévoles que nous ne toucherions pas par ailleurs, quoi.
D'accord.
Mais bon, au-delà de ça, nous, de notre côté, on voit pas trop de changement par rapport à la manière de s'entraider, quoi.
Ben merci Thierry Raymond, secrétaire général de la Fédération 92 du Secours Populaire.
Et merci à vous de m'avoir invité.
Le montant moyen annuel des dons déclarés par les foyers français a presque doublé depuis 2006. 656 euros de dons en 2022 contre 320 euros en 2006, d'après France Générosité, ce qui fait environ 3,6 milliards d'euros. La solidarité peut transformer profondément notre quotidien lorsqu'on en comprend toute sa puissance et son sens. À travers 5 points essentiels, Ponari va nous montrer comment la solidarité peut devenir un véritable outil de mieux-être, un lien qui apaise, qui élève et qui nous rappelle que nous ne traversons jamais la vie seule. Et retrouver la chronique bien-être.
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions. Les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Ponari.
Allons-y, plongeons tout de suite dans ces 5 points essentiels. Premier point, la solidarité comme besoin vital. On parle souvent de bien-être comme d'un chemin personnel. Méditer, respirer, se recentrer, mais on oublie que nous sommes des êtres relationnels avant tout. La psychologie positive nous explique que le sentiment d'appartenance est aussi vital que manger ou dormir. Quand nous nous sentons entourés, soutenus, reliés, notre corps réagit immédiatement. Le stress baisse, le cœur ralentit, la respiration se calme et notre cerveau libère des hormones de sécurité. La solidarité n'est donc pas un acte en plus, c'est un besoin humain fondamental, c'est aussi essentiel que l'air que l'on respire. Deuxième point, la solidarité comme acte simple et quotidien. On imagine souvent que pour être solidaire, il faut donner beaucoup, du temps, de l'argent, des grandes actions. En réalité, la solidarité commence bien avant cela. Elle naît dans un regard, un sourire, une écoute véritable. Elle se glisse dans un « tu peux compter sur moi », dans un « je suis là », même brièvement. Elle vit dans les petites attentions invisibles, celles que personne ne remarque, mais qui changent tout. La vraie solidarité, c'est reconnaître l'autre, lui rappeler, même sans le dire, qu'il existe, qu'il compte et qu'il n'est pas seul. Troisième point, la solidarité comme bénéfice réciproque. On sous-estime à quel point faire du bien nous fait du bien. Aider quelqu'un active les mêmes zones cérébrales que la gratitude, la joie, le bonheur. L'ocytocine augmente, nous ressentons de la chaleur, de la connexion, de la confiance. C'est un cercle vertueux. Je te soutiens, tu vas mieux. Tu vas mieux, je me sens utile. Je me sens utile, je vais mieux, moi aussi. La solidarité n'est pas une perte de temps ni d'énergie. C'est un investissement mutuel dans notre humanité. Quatrième point, la solidarité comme maturité émotionnelle. Longtemps, on a cru qu'être fort, c'est savoir se débrouiller seul. Aujourd'hui, on sait que la vraie maturité, c'est reconnaître nos limites. C'est savoir demander de l'aide, tendre la main, accepter la vulnérabilité. La solidarité n'est pas une faiblesse. C'est le signe d'un être humain qui comprend que nous faisons tous partie d'un même tissu humain, que nos forces se complètent, que nos fragilités nous rapprochent. Être solidaire, c'est grandir. Et accepter que l'autre nous aide, c'est grandir aussi. Enfin, cinquième point, la solidarité comme refuge dans un monde individualiste. Notre époque valorise la performance, l'indépendance, la réussite. Et pourtant, beaucoup se sentent seuls, épuisés, isolés. La solidarité devient alors un refuge, un espace de douceur dans un monde qui bouscule, un message, une main tendue, un soutien émotionnel, un geste simple. Dans une tempête personnelle, cela peut devenir un phare. La solidarité nous rappelle que même dans les moments difficiles, même lorsqu'on croit ne plus avoir de force, quelqu'un peut être là. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour tenir encore un peu. Alors, oui, la solidarité, c'est un bien-être qui circule. Chers auditeurs, la solidarité n'est pas juste un concept social, c'est une énergie qui circule entre nous. Une lumière qui se transmet, qui éclaire celui qui la donne, autant que celui qui la reçoit. Aujourd'hui, je vous invite à poser un petit acte de solidarité, un geste, un mot, une écoute. Quelque chose de simple, mais sincère. Car chaque graine de solidarité plantée dans le monde revient toujours d'une façon ou d'une autre. Merci pour votre écoute et surtout, prenez soin les uns des autres.
Eh ben merci Polari, Timanu et Médusé.
Ah complètement, parce que j'ai trouvé.
Bouge bée.
Non, j'ai trouvé que c'était des belles paroles et tout ce que dit Polari, elle résume ce que je pense que tout le monde actuellement vit, recherche.
Bon, j'aurais mieux fait de pas le lancer.
Ah,
en fait.
Mais pas du tout. Ah, t'as alors, complètement raison. Hein.
On
a mais, on peut que partager ton vie. Alors là, franchement, bravo.
Un petit rappel d'être humain. Voilà,
et ça se perd de nos jours. Hein. Un et geste oui. Comme ça, il y a un manque de chance. Ça se perd et vraiment, t'as très bien parlé. Bravo.
Merci Polari. Selon les rapports des agences spécialisées des Nations Unies, entre 638 et 720 millions de personnes ont souffert de la faim en 2024, soit un peu plus de 8% de la population mondiale, et près de 2,3 milliards de personnes faisaient face à une insécurité alimentaire modérée ou sévère. Ça signifie quoi ? Qu'elles avaient au moins à certains moments des difficultés d'accès à l'alimentation. En France, même dans un pays à l'abri des famines extrêmes, la précarité alimentaire touche environ 12 à 16% des personnes. Des applications alimentaires solidaires émergent pour rapprocher l'offre et la demande, réduire le gaspillage ou encore soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des plateformes comme Too Good To Go permettent de récupérer les invendus alimentaires à prix réduit, tandis que d'autres coordonnent la distribution de dons alimentaires via les banques alimentaires ou des réseaux de quartier. Et vous, vous avez déjà donné à des associations, Marie-Christine ?
Oh bah oui, oui, régulièrement.
Lesquelles, on peut savoir ?
Secours catholique. Des fois, je donne des colis au supermarché, là, la sortie. Petit frère des pauvres, enfin...
Et Kevin ?
Alors moi, je l'ai déjà fait, dans mon secours catholique, après des associations dont j'ai oublié le nom, et puis aussi les pièces jaunes.
Ah oui, c'est vrai. Bon, moi, j'ai dû le faire, mais moi, je vois ma mère, elle travaille plus, mais ma mère, maintenant, elle travaille dans une association où elle donne, c'est-à-dire qu'elle, où les jeunes qui travaillent pas viennent pour manger, et comme ça, ils payent peu cher, et on les aide à trouver du boulot aussi. C'est pas moi, c'est ma mère. Hein.
Polari ?
Je donne beaucoup à la SPA.
D'accord.
Toujours pour les animaux.
Moi. Toujours pour les animaux.
Ah, j'ai donné aussi à la maladie de Charcot cette année.
Ah.
Et Eric, tu donnes à des associations ?
Ouais, ça m'arrive, mais surtout en direct, par exemple, au supermarché, quand il faut faire des dons alimentaires, banque alimentaire, des choses comme ça.
Et vous avez déjà, vous, en payant, arrondi à l'euro près pour donner à une association quand vous faites vos courses ? Avec la carte bleue ?
Ah, bonne question. Ah, pas toujours.
Non.
Moi, je paye aussi.
Que... Je ne sais pas où ça va.
Moi, c'est pareil. Je préfère donner à part.
Et la solidarité en fin d'année à Noël ?
En fait, j'attends pas Noël, je crois. Bon, après, oui, il y a toujours les sollicitations des associations à Noël, c'est sûr. Mais c'est vrai que pas particulièrement Noël tout le long de l'année. Moi,
C'est vrai que certaines personnes âgées ou isolées se retrouvent seules pendant les fêtes de fin d'année ou à Noël. Et des fois, il y a des gens qui accueillent ces personnes âgées là. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut les connaître.
Ah bah oui.
Généralement, c'est familial les fêtes de fin d'année, Noël encore plus. Donc, mais il y a beaucoup de personnes, ouais, qui se retrouvent un petit peu isolées pendant les fêtes.
On pense à la solitude, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont tristes, qui ont personne, qui ont pas d'argent, ou savent pas où aller. Et c'est très important de le dire.
Oui, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais que à Noël, le plus beau cadeau, c'est d'être avec les gens qu'on aime et d'avoir des proches en bonne santé.
Exactement. Tout à fait
d'accord. On le répéterait jamais assez. Alors, là, très belle parole, Kevin. Hein. Je reconnais.
Moi, oui, avec mes parents, un vieux monsieur qui était tout seul. On m'a invité plusieurs fois à Noël. Et une fois, c'était un monsieur âgé, Pierre Guénin, qui était venu plein de fois.
Tout à fait, très âgé.
Il était tout seul le 31 décembre. On a été. Parce qu'il fêtait jamais rien le 31 décembre. On s'est dit, oh, c'est quand même un peu triste. On a fait un truc à 2-3. Bon. C'était en petit comité, mais ça lui a fait plaisir de pas être seul le 31 décembre.
C'est vrai aussi que Noël, et pour moi, je suis un peu plus âgée, mais c'était une fête à l'époque quand j'étais jeune catholique, et il y avait la messe de Noël qui était quand même si on n'était pas hyper pratiquant, c'était quand même un moment chaleureux où les gens se retrouvaient, où on avait encore du plaisir à fêter cet événement parce que il y avait des illuminations, il y avait chant, il y avait, enfin c'était une fête un peu sacrée. Et même si on n'était pas catholique, ça permettait que tout le monde sorte et ça donnait un esprit de joie.
Alors que maintenant, t'as le live de Noël de Petit Manu.
Ah non, ça c'est autre chose. Mais t'as raison, parce que moi je retourne à l'église où j'ai fait ma première communion. Ma grand-mère allait chanter les chants à la messe tant qu'elle était vivante. Et c'est plein à craquer. Et moi j'ai peur, ne serait-ce avec ma mère. Et c'est vrai qu'on sort, ça me rappelle plein de souvenirs. Et malheureusement, cette tradition, Marie-Christine, ça se perd.
Oui, mais c'était un moment d'illumination.
Ah ouais.
On attendait la messe de minuit.
Ah, complètement.
Tu peux écouter le live de Noël de Petit Manu. Il est illuminé aussi.
C'est pas ce qu'on dit.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale. Commençons par la musique. Quand on parle de solidarité en chanson, certaines chansons ont marqué l'histoire, comme We Are the World.
Ah oui, voilà.
De USA for.
Oh, je préfère que tu dises très bien, Didier, tu as très bien.
Africa.
Africa, tu t'as fait.
Véritable hymne contre la famine en Afrique. Do They Know It's Christmas du collectif Band Aid, ou encore la chanson des Restos des Enfoirés pour soutenir les Restos du Cœur. On peut citer aussi Candle in the Wind de qui?
Alors là, je vois.
C'est quoi? Un indice, John.
Ah oui, au plus sinon, il y a aussi la musique de George Baker,
Hans Christmas. Mais John, tu penses à qui?
Qui a chanté Candle in the Wind?
Un autre indice, Lady Diana.
Lady Diana?
Qui a chanté?
John, je vois pas.
Il a même liké une de mes stories en rapport avec l'émission sur Instagram.
Ah bon? Ah, carrément!
C'est Elton John.
Elton John. Qui a même fait le Royaume aussi.
Dont les bénéfices de cette chanson ont été reversés au fonds mémorial de Lady Diana, décédée en 1997. Et c'est la chanson la plus vendue de tous les temps, avec un but caritatif, vendant environ 33 millions d'exemplaires dans le monde.
C'est fou.
Mais quelles sont les autres chansons qui ont été reversées à de grandes causes? La réponse dans le quiz de...
Kevin!
Et c'est parti pour le quiz!
Non, quiz! Ah, quiz! Attends. Comme le cheese!
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, là, que je vais me porter sur un truc.
Mais ils sont trois! Ils sont trois!
Eh bien oui, hein, les artistes ont aussi du cœur, ils l'ont prouvé à travers des chansons caritatives dans le but de renverser des fonds pour des associations ou des grandes causes. C'est le cas d'un collectif qui a repris une célèbre chanson en français. De qui il s'agit à votre avis?
Il flotte des sapins et des cadeaux quand vient le jour de Noël.
Oui, là il y a un slammer, mais il n'y a pas qu'un slammer.
Il y a plusieurs personnes.
Des sources de problèmes.
Alors c'est un rapport avec un titre que j'avais proposé l'année dernière à la même période et que t'as même cité dans le lancement, Didier, là, tout à l'heure.
Que j'ai cité.
Il y a Christmas dedans.
Do they know it's Christmas?
Tout à fait. Ah. En fait, c'est cette chanson-là, mais en français, repris en français.
Donc en traduction français.
Tout à fait.
C'est curieux, moi je pensais que c'était pas le chanteur Passy. Peut-être que je me trompe, qui chantait là, on entend que c'est pas Passy.
Non.
Ah, donc c'est une erreur. Bon, bah tant pis, je me suis trompé, mais ça ressemblait en tous les cas.
Alors ils ont repris le même nom, Band End 30, avec cette reprise de Do They Know It's Christmas, mais sous le nom de Noël est là. C'est sorti en 2014 et c'était un titre pour lutter contre le virus Ebola. Vous connaissez ce virus.
Oui. C'est une bonne idée en tout cas.
Et l'ensemble des bénéfices ont été renversés contre le virus Ebola. Et cette chanson, elle a été écrite par une certaine Carla Bruni.
Ah, comme quoi.
Et il y en a un qui participe à cette chanson, c'est un certain Renaud qui a fait une autre chanson caritative. Vous rappelez le titre ?
Non.
C'est le nom du collectif, c'était en 1985, avant les Restos du Cœur.
Ah,
oui. Le collectif Chanteurs sans frontières.
Ah d'accord, non, il fallait savoir. C'est vrai qu'il a souvent chanté avec Hugo Frey et plein d'autres personnes aussi.
Oui, c'est ça. Et parmi les artistes, il y a notamment, vous entendez Christophe Willem. Il y avait aussi Louane qui était toute jeune.
Ah oui.
Il y avait également Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et Renaud que j'ai cité. On passe maintenant à une chanteuse française incontournable qui s'était produite à l'Accor Arena il y a quelques semaines.
J'entends chanter par les fenêtres. Au monde abîmé, nous offrons ce cadeau.
Si dans les rues. Un indice, je t'aime.
Lara.
C'est Lara Fabian.
Tout à fait, oui.
Maman qui est aussi maman aussi.
Oui, exactement.
Oh, oui, oui.
Lara Fabian avec cette chanson intitulée « Nos cœurs à la fenêtre ». C'est une chanson qui a un rapport avec ce qui s'est passé. Ça fera 6 ans au printemps prochain. Ça nous a tous frappés.
Le Covid ?
Oui, tout à fait, exactement.
Tu nous l'as refilé, Kevin, le Covid.
Ah oui.
Mais non.
Ah si, 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 c'est toi qui nous l'as refilé.
C'est vrai.
Petit Manu et à moi.
Ouais, à moi, c'est curieux, parce que moi, quand j'avais fait le test, comme j'ai des petits problèmes d'allergie, j'ai rien su. N'empêche que j'ai fait une chanson en slam, Restez chez vous. Et c'est vrai, c'est.
Il a dû annuler un concert en live.
Non, mais c'est vrai.
Les auditeurs étaient soulagés.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai, je faisais mon premier clip musique, mon deuxième clip. Et manque de chance, comme j'étais un peu malade, ma mère m'a téléphoné, m'a dit on annule tout. Alors, j'étais un peu froid, et pendant une chanson j'ai fait restez chez vous par rapport au Covid, c'est vrai. Je pouvais pas sortir, en plus il y avait un froid. Et le vendredi, après lundi, le vendredi soir je suis sorti, j'avais un entretien à la maison et j'ai fait une chanson par rapport au Covid, restez chez vous quoi. Et...
C'est chez elle qu'elle a écrit cette chanson parce que c'était sorti en avril 2020. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en avril 2020, on était confinés.
Oui.
Et on applaudissait par la fenêtre.
Ah oui, c'est vrai. Et même, je me rappelle, les médecins parlaient, c'était très important. Et même quand on venait, on avait des papiers pour vous dire, oh là là, on ne s'est pas vraiment amusé.
Ça faisait penser à un film.
Les médecins parlaient, c'est vrai.
Et on les voyait passer en bas.
Tout à fait, c'est
avec
vrai.
Avec cette interdiction de sortir.
Ah, c'est pas évident.
Et c'est donc ça qui a inspiré à Lara Fabian, cette chanson « Nos cœurs à la fenêtre ». Qui est un message de soutien envers les soignants qui étaient en première ligne durant la pandémie. Et les bénéfices ont été renversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, la Protection Civile, Centraide et la Fondation Roi Baudouin.
Ah, quand même, c'est important, une bonne cause.
Et elle avait déclaré dans une interview à 20 minutes à l'époque, « Cela me paraissait naturel de redistribuer les bénéfices de manière juste, équitable, en fonction de ses racines très fortes. » Et ajouter ceci, « Ce n'est pas mon geste qui changera la donne, mais peut-être que le mien uni à tous ceux des gens qui m'ont envoyé des vidéos et des célébrités qui ont eu la générosité de participer au clip pourra soulever une vague de générosité qui créera des bénéfices importants reversés aux 4 associations. » Et dans le clip de la chanson, il y a notamment Eva Longoria, Michel Drucker, Kev Adams, Franck Dubosc et des dizaines d'autres personnalités. On passe maintenant à un autre collectif après celui que j'ai évoqué dans la première chanson. Vous allez sans doute le reconnaître.
When we hear a song. Ah, c'est la Lune et l'Énergie qui chantait avec Michael Jackson et tous les grands chanteurs de l'époque.
Tout à fait.
Qui s'étaient rencontrés aux États-Unis pour avoir une certaine somme d'argent. Quoi.
Et comment s'appelle le collectif ? Alors, j'ai la cité si tu es attentif, petit Manu.
T'as dit un collectif important, on l'entend chaque année aussi, mais il faudrait que tu le redises.
Alors c'est USA for Africa.
Voilà, c'est ça. Enfin, t'as très bien
et dit. Et le titre de la chanson.
Voilà.
Et le titre de la chanson.
parodie, je préfère que je dise, parce que moi, si je dis, je veux faire rigoler tout le monde.
Oh, c'est pas... connu pourtant, c'est We Are The World.
Ouais, We Are The World, tout à fait, je savais sans le savoir, vraiment, voilà.
Et vous savez comment est née l'idée de cette chanson?
Bah, je crois que c'est, on a confié à Michael Jackson, puis à Elon.
Oui, mais à cause de quoi, justement?
Bah, c'est pas la famille.
La famine en Éthiopie, tout à fait.
Et je crois qu'ils se sont associés parce que c'est comme des artistes très connus mondialement. Et ils ont les moyens, ils ont dit, tiens, si on pouvait aider les gens. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Et après, je crois qu'aux États-Unis, tous les artistes qui se sont réunis, il y a même aussi la Jackson, la petite sœur de Michael Jackson, qui sont venus. Ça doit être immense qu'on voit toutes ces artistes. Qu'est-ce que t'en penses, Didier? Qu'on écoute, imagine, on était là, ça doit être impressionnant. Et...
C'était en 1984, non, j'étais pas né.
C'était une bonne idée quand même.
Et la famine a provoqué, en Éthiopie, elle a provoqué plus d'un million de morts. Et cette chanson, We Are The World, elle a permis de collecter environ 60 millions de dollars.
Ah ouais, complètement. Donc c'est vrai
que et 100% des bénéfices, vente de singles, de l'album, des produits dérivés, et droits de diffusion ont été renversés à l'association USA for Africa dans le but de financer l'aide d'urgence contre la famine en Éthiopie et des programmes à long terme en Afrique, agriculture, santé, éducation. Et la chanson a été enregistrée en janvier 1985. Et pour cette chanson, Michael Jackson et Lionel Richie ont invité plus de 40 artistes parmi ceux-là.
Tous les grands artistes, t'imagines?
Tout à fait.
C'est impressionnant. On dit ça, mais c'était waouh.
Parmi eux, Stevie Wonder, Ray Charles, Diana Ross, Bruce Springsteen, la regrettée Tina Turner, Bob Dylan, Cyndi Lauper et beaucoup d'autres. Et qui était, le superviseur à l'origine de l'enregistrement de cette chanson? Il nous a quittés, malheureusement.
Je préfère que tu dis, parce que...
Quincy Jones.
Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'était tous les grands stars marketing qui étaient là. Ils ont eu l'initiative.
Je crois que c'est une bonne. Je propose qu'on écoute le refrain, bien sûr.
Très bonne idée.
Bravo Manu.
Bon, merci.
Bravo.
Non.
Il a essayé.
Ce qui on peut applaudir, c'est quand même Kevin qui a bien renseigné. Moi, j'ai un peu aidé dans les explications, mais c'est Kevin qui a bien coaché de A à Z tous les renseignements. Donc, on peut applaudir Kevin. Moi, j'ai un peu chantonné. C'est Kevin quand même.
On s'applaudit aujourd'hui.
Ah, voilà, on s'applaudit.
On s'auto-congratule.
Voilà.
Et on termine avec un autre collectif.
J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit. Elle se fout d'être mouillée.
Alors là, c'est un collectif qui s'appelle Paré Africa. Là, c'est français pour le coup. Hein. Ça a été créé en 2011. Un collectif qui a fait une chanson qui s'intitule Des Ricochets, et les bénéfices ont été entièrement reversés à l'UNICEF au profit de la lutte contre la crise nutritionnelle et alimentaire qui frappa 4 pays de la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, encore une fois, le Kenya et Djibouti. Et les premières victimes, c'était les enfants. Et cette chanson, hein, Des Ricochets, est interprétée par une partie du collectif Paris Africa. Parmi eux, il y a Alizé, Amel Ben, Tangou, Alpha Blondie, Alain Chamfort, Amoury Vassili, Ariel Dombal, Benabar, M. Pokora, David Hallyday, Gérard Lenormand, Hélène Segara, Florent Motte, Les Bébés Brunes, Chimène Badi, Corneille, Christophe Willem, Christophe Mahé, Colonel Réel, Collectif Métissé, Julie Zenati, Magic System aussi. Il a participé la chanteuse Jennifer, que vous connaissez.
Du beau monde.
Du beau monde, bien évidemment. Et la chanson a été écrite par et réalisée par Frédéric Château, Lionel Florence et Patrice Guirao. Sur ce, soyons solidaires. Merci à tous.
On ne le répéterait jamais assez.
Eh bien, merci Kevin.
On continue à parler de solidarité sur IDFM Radio jusqu'à 22h avec de la culture pop. Si la date du 29 août 1997 marquait la fin du Club Dorothée sur TF1, on n'oublie toujours pas l'élan de solidarité que cette émission pouvait avoir entre 1987 et 1997. Le Club Dorothée était une émission de télévision française destinée à la jeunesse, présentée par l'animatrice Dorothée et accompagnée de Jackie, Ariane Carletti, François Corbier et Patrick Simon-Jones, ainsi que de nombreux guests. L'émission a connu plusieurs déclinaisons, dont celles qui ont pour but d'appeler à la solidarité de tous, Dorothée étant la première à s'investir pour importer le Téléthon en France en 1985, à imaginer dans sa propre écurie des émissions telles que On pense à toi ou encore Le Noël de l'amitié, en passant par des millions de copains. Retour sur cette époque télévisuelle solidaire autour du Club Dorothée dans la chronique d'Éric.
Ah, ce jingle, hein, il nous ramène
oh là là,
à des années en arrière, n'est-ce pas Didier?
Oui, époque où on n'était pas nés.
Oh bah exactement. Oui.
Petit Manu était déjà en prison.
Oui, mais toi aussi tu étais né.
Ah, pas en prison.
Quoi, non, pas en prison, mais tu étais déjà né, un jeune homme, un petit enfant.
En 86, tout juste, tout juste.
Mais oui, mais t'étais enfant aussi, je suis pas le seul.
En 86, arrête, t'étais déjà arrêté trois fois pour trafic de
non. Mais il a beaucoup d'exagérations, mais ça rappelle bien des souvenirs, mon cher Eric, ça je peux le confirmer.
Il y a que Kevin qui était pas né.
Ah ouais. Mais quel enfant avec Dorothée.
En 86, non.
Bah oui. Tous les mercredis, on regardait le comme de... Toi aussi,
et
imagine.
Et oui,
hein.
Et oui.
Qui n'a pas été, qui a pas été bercé.
Les dessins animés.
Et oui.
Petit Manu a longtemps regardé l'ORTF.
Oh. Oh, ça, c'était avant le Club Dorothée. Oh là là, on joue.
Le jingle d'Amir.
Oh là là là, on joue, évidemment. Puis on aussi.
Et dans les années 80-90, il y avait le Club Dorothée.
Exactement.
Bah oui.
Et puis ça m'emmène, je vous prends la main et je vous emmène en 1987, puisque c'est l'année où le Téléthon est arrivé sur les ondes, et cela a donné des idées, surtout à une certaine animatrice du nom de...
Dorothée.
Dorothée, si elle nous écoute, hein.
On lui fait un
gros bisou,
bonjour.
C'est bon, on la salue amicalement. Vous avez vu la dernière émission, elle a réuni tout le monde dans la cour. Je me rappelle la dernière émission.
Ah bah oui.
C'était émouvant. Elle avait réuni tout le monde. Et c'était là, on dit au revoir. C'était, oh là là, quand on y pense, mais c'est, elle a fait fort.
Alors oui, vous la connaissez presque toutes. À l'origine d'un concept assez solidaire et généreux, elle souhaitait qu'aucun enfant ne passe Noël sans cadeau. C'est ainsi que les Noëls de 1992 à 1996, les téléspectateurs ont pu découvrir une émission caritative, le Noël de l'amitié. Alors ce concept réchauffe le cœur à tel point que l'on pouvait voir un élan de solidarité. Hein. Vous vous souvenez ces émissions qui passaient à Noël où elles monopolisaient de façon très positive l'antenne presque toute l'après-midi ou le soir. Et donc il y avait des dons de masse de cadeaux par des fabricants de jouets. Hein. On se rappelle tous de Jouets Club entre autres, Lancé Bandai, les éditeurs, distributeurs. La production donne le bon exemple car la société qui produit les émissions jeunesse AB Productions hein, de Jean-Luc Azoulay, il fait des dons également et tout l'univers AB confondu, donc les chanteurs des sitcoms comme Hélène Rollès, Bernard Minet, des musclés. Les musclés, hein, vous vous souvenez de leur nom? Il y avait
René
Framboisier,
et il avait sa fiancée
Rémi, qui était le mari, le compagnon de d'Ariane.
Tout à fait, c'est vrai. Il avait sa femme.
Et moi j'avais été sur les plateaux.
Ah oui,
j'avais visité les plateaux de Premier Baiser, des musclés, j'avais visité tous les plateaux. On s'était fait un peu engueuler à l'époque parce qu'il y avait une très gentille attachée de presse à me dire c'est des gamins, je vais leur faire visiter tous les trucs. Et puis je me rappelle, il y avait des producteurs qui disaient mais ils sont sur tous les plateaux, mais qu'est-ce qu'ils foutent? On va tourner et tout, et nous on a eu la chance de visiter tous les plateaux et tout. Moi j'étais très étonné parce qu'il y a deux trucs qui m'avaient vraiment étonné, c'est que tout était en carton déjà, les tables fallait pas trop les toucher, sinon tout s'effondrait. Et c'est que la caméra est filmée mais au centimètre près, c'est-à-dire que le sol c'est vraiment au centimètre près, on voyait plus le carrelage. Tu vois, on voyait il y avait que des bouts de carrelage vraiment bouts du sol. En bas, il y en avait pas. Tu vois, c'était vraiment tout était vraiment économisé au moindre centimètre près. Ce qu'on voyait pas hors caméra, il y avait pas de carrelage. Donc des fois, les acteurs marchaient sur un bout de carrelage, puis quand ils avançaient devant la caméra, il y en avait plus, mais on le voyait pas.
C'est vrai que c'était une idée de génie à l'époque. Ça de tourner plusieurs scènes de plusieurs sitcoms. Et c'était vraiment, je pense, la première fois en France qu'on voyait ça de chez la production AB, quoi.
Et je me rappelle, il y avait même le docteur Klein qui parlait des animaux aussi, le fameux docteur Klein qui a, je crois, est décédé, mais à chaque fois, il présentait des animaux aussi, ça m'avait marqué aussi.
Alors, tout l'univers AB, comme je vous disais, s'y mettait et s'investissent en donnant un ton adulte à l'émission. Hein. C'est pour ça qu'on pouvait aussi avoir à cette époque-là, devant ces émissions caritatives, les parents et même plus, hein, y a des personnalités qui venaient à l'émission. Les spectateurs aussi avaient la possibilité de faire des dons via le Minitel. Donc le Minitel, on connaît tous.
Alors c'est 3615.
Voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Donc l'ancêtre d'Internet.
Exactement.
Et en fait, par ce biais-là, donc les connexions, le coût des connexions des téléspectateurs permettait de reverser des sous aux associations caritatives. Donc c'est pour ça qu'en fait, on invitait les téléspectateurs à envoyer des messages de solidarité. Et les meilleurs messages étaient lus par nos héros de l'époque. Donc Hélène, Nicolas... Cri-cri d'amour.
Ah oui, il est devenu musicien maintenant, il est dans la musique.
C'est ça, exactement.
Sébastien Rock.
Il m'avait acheté un sandwich une fois.
Ah oui.
Je travaillais en tant qu'étudiant à Paris, dans une boulangerie, c'était Cri-cri d'amour qui m'avait acheté un sandwich, j'étais très impressionné.
Il était sympathique.
Bon, bah, il m'a juste demandé un sandwich.
Ah ouais, bah tu vois, comme quand t'as la chance de l'avoir rencontré.
Hein. La conversation fut brève.
Hein. Il avait tourné dans un long métrage bon, pour public averti, qui n'a pas vraiment marché.
Ah oui,
oui c'était érotique hein, quand même.
Ah,
comme,
ah bon
et c'était intéressant comme thématique.
Ouais, bah, pourquoi
que je vous invite à découvrir, vous pouvez le revoir.
Comme Giant Cuckoo,
ah, oui,
que j'ai rencontré dans le métro à Paris.
Alors, Giant Cuckoo, c'est vrai qu'il faisait des films,
c'est
je pense, un peu plus pour adultes.
Oui, oui. Et je lui avais posé la question, j'ai dit « Ah, Giant Cuckoo et tout !» J'ai dit « Alors, l'ambiance sur le tournage ?» Il me dit « Exécrable !»
Ah bon ?»
J'ai dit « Ah bon ?» Il me fait « Ah non, les gens sont vraiment pas sympas !»
Ouais, j'ai entendu...
Ah, j'ai dit « D'accord, ok. »
J'ai lu des choses là-dessus aussi. Ouais. Hein.
Des films érotiques
oui.
Lui, il avait fait des films carrément, je crois, pornographiques.
Pornographiques,
oui, c'est vrai.
Mais il tournait dans...
L'ambiance
non, lui, non, pas. Alors, l'ambiance dans les films pornographiques était peut-être certainement meilleure, mais c'était plutôt dans le miel et les abeilles.
C'était pas le premier à avoir dit ça. Je crois qu'elle avait eu la maîtresse de maison des filles à côté disait aussi que elle était pas très, enfin, c'était pas très sympa avec elle.
Eric, ça je le voyais souvent, il me criait, il disait à chaque fois dans la rue, bonjour. Ah, ben, je le voyais à chaque fois, il manquait de discrétion. À chaque fois, bonjour, comment tu vas?
Ah oui, c'est vrai qu'il avait pas l'air d'être très discret, autant que toi d'ailleurs.
Ah oui, c'est pour ça qu'il s'entendait peut-être bien.
Ah non, mais en même temps, quand je le voyais, c'était discrètement, mais il me disait bonjour comme ça. Mais elle m'a vraiment peur de rien. Malheureusement, elle est décédée, mais j'ai vu de temps en temps, coucou, comment tu vas? Voilà, il manquait vraiment pas de discrétion.
Eh bien, je vous invite à écouter la bande-annonce du Noël de l'amitié.
Chaque année, en France, des milliers d'enfants n'ont pas de cadeaux pour Noël. Au Club Dorothée, nous avons décidé de changer tout ça. Pour ça, nous lançons un appel à tous les fabricants, à tous les distributeurs de jouets, à tous les éditeurs de France, à tous ceux qui peuvent nous aider à faire qu'aucun enfant ne soit un oublié de Noël. Nous avons besoin de milliers de jouets, de livres, de cadeaux neufs. Les plus grandes associations caritatives de France se sont déjà associées à nous pour distribuer ces cadeaux. Et le jeudi 24 décembre, de 8h55 à 17h30, toute l'équipe du Club Dorothée, mais aussi les comédiens de vos séries préférées, se mobiliseront pour qu'aucun enfant de France ne passe Noël sans cadeau. Cette année, au Club Dorothée, grâce à vous, ce sera le plus beau des Noëls de l'amitié.
Le Noël de l'amitié était de loin un coup d'essai, car Dorothée avait pensé déverser sa générosité via les ondes TV quelques temps avant l'émission On pense à toi entre 1987 et 1989. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission. On pense à toi. Donc, dans cette émission, l'équipe part à la rencontre d'enfants hospitalisés ou handicapés. Cette émission a connu donc une déclinaison spéciale Noël. C'est assez original de voir des fabricants de jouets à grosse notoriété venir présenter et donner leurs produits. Au-delà de Noël, on peut dire que la team Dorothée était au taquet dès qu'une catastrophe naturelle, comme les tremblements de terre ou inondations, avait lieu en France ou dans le monde. Elle était là et on le voyait à la télé. Donc, il y avait les guerres, les inondations, je crois que c'était au sud de la France. Elle était là, elle faisait vraiment les émissions tant pour les enfants malades que pour les catastrophes naturelles. Et ces émissions, il y avait une alternance entre dessins animés et des séquences de chansons de Noël et autres séquences du Club Dorothée, comme on l'aime bien. Donc il faut savoir qu'à cette époque, certaines règles étaient floues et d'autres peu rigides en matière de dons de télévision. Je parlais du coût de connexion d'Emitel. C'est pour cela que l'émission passait par les associations qu'on connaît aujourd'hui pour les dons, telles que la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou encore le Secours Catholique. Il y avait quand même une forme de liberté, comme citer des marques de jouets, qu'on ne pourrait plus se permettre aujourd'hui. Et tout cela n'a pas empêché de développer l'émission Le Noël de l'Amitié ou encore Des Millions de Bougies. Il y a aussi une autre émission. Vous vous souvenez, il fallait allumer des bougies. Donc, chacun achetait des bougies à 5 francs. Je parle aussi de francs. Ouais. Donc, tout le monde achetait des bougies à 5 francs. Ils allumaient. Et à 20 heures précises, les caméras étaient braquées. Et on voyait toutes ces bougies donner des symboles. Donc, pour rendre hommage à tous ces gens qui en avaient besoin. Peut-être des messages. Et il y a eu aussi des messages de l'Élysée de la part de l'ancien président de la République. À cette époque, dans les années 90, le président de la République qui était...
Alors, il y a eu François Mitterrand et Jacques Chirac après.
Tout à fait. Donc, c'était François Mitterrand.
Il avait bien participé.
Des messages.
Et comme disait mon grand-père, Mitterrand.
Exactement. Mitterrand. C'est ce que je dis des fois, on l'appelait Mitterrand. Bah, je disais un peu la même Mitterrand. Chose. Comme ton grand-père, effectivement, j'ai toujours dit ça aussi.
Bon, il l'appelait aussi par un autre nom, mais ça, c'est
non, ça. Non, mais Mitterrand. On l'appelait Mitterrand, et c'est ce que j'allais dire aussi.
Mais on peut voir des photos, justement, à l'Élysée de Dorothée. Enfin, elle avait vraiment un impact. C'est qu'on est petit, on voit pas tout ça. On dit oui, c'est une animatrice, mais elle a fait quand même pas mal de choses dans le fond. En background, elle a initié quand même pas mal de choses.
Quand même. Ouais, exactement. On était jeunes, on ne savait pas forcément.
Bah, avant,
d'ailleurs, le nom, on s'en souvient encore tous alors.
Ah, bah oui, c'est. Bah,
mais avant d'être sur TF1, elle était sur France 2, et après, elle a basculé sur la Une. Elle était sur France 2, tout à fait.
Alors, quoi que l'on peut dire sur ces émissions, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que tous les spectateurs confondus, y compris les partenaires et autres invités, ont partagé un grand moment de solidarité lors de ces émissions.
Oui.
Alors, on parle souvent de Dorothée, mais on peut aussi évoquer sa bande comme Bernard Minet, qui chanta « Changer tout ça », qui était, entre parenthèses, le premier générique d'une émission qui s'appelait « Des millions de copains ». Ou encore « La petite fille de Sarajevo », qui étaient tous deux des chansons empreintes de solidarité humaine. Il y avait aussi Hélène Rollès, qui a chanté sa chanson « Monsieur Kennedy », entre autres. Et je vous invite à écouter un petit medley de Bernard Minet avec « Changer tout ça » et « La petite fille de Sarajevo ».
La guerre. Pourquoi on détruit la forêt? C'est vrai qu'il y a des gens qui tuent d'autres gens? Dis, jusqu'à quand ça va durer tout ça?
Oh, combien de drames, combien de larmes devront couler? Oh, combien de sang devront verser les innocents pour qu'enfin le monde apprenne à rêver, pour qu'enfin les hommes apprennent à aimer, pour que les humains enfin se donnent la main. La petite fille de Sarajevo n'arrive pas à s'endormir. Elle n'a que 9 ans, mais déjà trop, trop de terribles souvenirs. Elle pleure, elle a froid, elle a peur. La petite fille de Sarajevo ne peut pas trouver le sommeil. Elle ne sait plus que le monde est beau et qu'il est rempli de merveilles. Elle pleure, elle a froid, elle a peur. Qui peut me dire jusqu'à quand et jusqu'où les humains pousseront? Me dire pourquoi le
Dorothée n'a pas toujours attendu Noël pour penser au monde de manière solidaire. Hein. Souvenez-vous, donc je vous parlais des émissions comme Des millions de copains, donc qui passaient entre 1993 et 1997. Il y avait de très bonnes audiences. Hein. L'émission s'est arrêtée sur de très bonnes audiences hein, pour les problèmes qu'on connaît de choix, j'allais dire politique, enfin, de choix éditorial de TF1. Donc ça passait le dimanche soir, fin d'après-midi. Donc vous vous souvenez, il y avait cette fameuse émission où on voyait l'actrice Pamela Anderson aux côtés de David Hasselhoff avec Alerte à Malibu.
Tout à fait.
D'autres émissions. Il y avait également Alain Deloche de Noyelle, hein, celui qui avait contribué à Médecins sans frontières aux côtés de Bernard Kouchner. Donc, qui était une émission vraiment importante parce que ça permettait, entre autres, d'apporter de la solidarité qui avait visé de promouvoir des associations caritatives et de mobiliser le public autour des problèmes de l'enfance maltraitée et de certaines maladies infantiles méconnues. Avant de clore cette chronique sur la chanson de Dorothée qui fut aussi l'hymne et le générique de cette émission, je tenais à vous dire, amis de la Pop TV, que la solidarité soit toujours avec et toujours autour de vous. Voici Dorothée avec la chanson « Des millions de copains ».
Que le monde t'a abandonné, que rien ni personne ne pourra te sauver.
Hey, arrête-toi, regarde, ils sont là.
Tu crois que ta vie n'a pas d'intérêt, que le monde oublie. De Sarajevo, pour toi l'Africain qui meurt pour un peu d'eau.
Hey, arrête-toi, regarde,
Merci Eric. Et cette émission sur la solidarité, c'est déjà fini.
Oh là là, c'était très émouvant.
Vous avez loupé le début de l'émission, si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur
bigbangstation.fr.
On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe de Victor Hugo. La fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée universelle.
Salut à toutes et à tous, la semaine prochaine, on se retrouve pour une... spécial Noël.
Exactement, best-of de toutes les émissions.
Non, une spéciale Noël.
Ah oui, spéciale Noël.
Best-of, c'est pour la fin
de
l'année.
Oui, j'ai confondu.
Donc la semaine prochaine, spéciale Noël avec des cadeaux.
Ah bah voilà, des cadeaux. Nous sommes des grands enfants.
Salut à toutes et à tous.
Salut et soyons solidaires.
Ok, let's stop.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravero sur IDFM Radio.